chronique de Philippe Jorgensen.
La chronique d'aujourd'hui se pose la question : la France est-elle condamnée au sous-emploi ? L'amélioration toute récente des chiffres de l'emploi en France, où le nombre des chômeurs totaux a reculé de 20 000 au cours des deux derniers mois, ne doit pas dissimuler l'ampleur de ce qui constitue, hélas, en dehors même des suites de la crise économique récente, un mal français : la sous-utilisation chronique de notre capacité de travail. Voyons d'abord les chiffres globaux. L'INSEE et l'Organisation internationale du travail, l'OIT, classent les chômeurs en plusieurs catégories, chômeurs totaux ou différentes catégories de chômeurs partiels. La catégorie A, celle du chômage total, rassemblait fin juillet dernier 2 676 000 demandeurs d'emploi. Ce chiffre a progressé de 5,4% en un an, malgré le début de sortie de crise. Certes, on a compté au premier semestre de 2010 que 31 500 chômeurs supplémentaires contre 300 000 pour la période correspondante l'an dernier. Mais à ce niveau, près de 10% de la population active totale, 9,5% exactement, reste sans emploi. Les prévisions officielles ne font prudemment état que d'une stabilisation du chômage d'ici à la fin de cette année, en espérant une vraie baisse en 2011, si du moins la reprise est au rendez-vous. Lorsqu'on inclut les chômeurs partiels des catégories B et C, qui travaillent par exemple à mi-temps mais souhaiteraient allonger leurs horaires, le nombre de demandeurs d'emploi approche 4 millions, soit près de 14% de la population active, et ce chiffre continue à progresser légèrement. C'est un drame économique, car cela représente la perte d'autant de capacités de production, mais surtout un drame humain. La démoralisation et la destruction des structures sociales qui s'en suivent s'aggravent au fil du temps, avec l'accroissement de la proportion de chômeurs de longue durée, dont la réinsertion est d'autant plus difficile qu'ils sont restés longtemps éloignés du marché du travail. On comptait, en juillet 2010, 1 436 000 personnes en recherche d'emploi depuis plus d'un an. Ce chiffre impressionnant, près d'1,5 million, est en hausse de 27% en un an. Et les recrutements, lorsqu'ils ont lieu, se font, dans 80% des cas, en CDD, même si ces contrats temporaires ne pèsent encore que 10% de l'emploi total. De plus, l'intérim prend une place croissante dans les embauches. On nous répondra que ce phénomène est classique en début de reprise, et que d'autres pays font pire, en particulier l'Espagne, où le chômage vient de dépasser la barre des 20%. Mais ce cas mis à part, nos grands concurrents font mieux que nous. L'Allemagne ne compte que 7,6% de chômeurs totaux, la Grande-Bretagne 7,8%, l'Italie 8,5%, les États-Unis, que cette situation rare pour eux inquiète profondément, sont à 9,5% comme nous, mais le Japon se maintient à 5% seulement. Outre son niveau globalement élevé, le chômage en France présente deux particularités préoccupantes. Il frappe davantage qu'ailleurs les plus jeunes et les plus âgés. Le taux de chômage des moins de 25 ans reste en France nettement supérieur à la moyenne européenne. Près d'un jeune sur quatre, 23% mi-2010, chiffre en léger repli sur celui de l'année précédente, est sans emploi, contre 18% en moyenne européenne. Cette proportion de jeunes chômeurs dépasse le tiers, voire la moitié des jeunes dans les quartiers difficiles. Et il est facile d'établir le lien entre cette donnée essentielle et la déstabilisation croissante des banlieues à problème, comme on dit. Certes, le sous-emploi des jeunes n'est pas propre à la France. Là encore, un rapport de l'OIT publié le mois dernier montre que 81 millions de jeunes se trouvent sans emploi dans le monde, soit 13% de la population active. Mais ce taux reste inférieur de 10 points à ce que nous connaissons en France. À l'autre bout de l'échelle, les seniors sont eux aussi défavorisés. Le nombre de chômeurs quinquagénaires a progressé de 21% en un an et de 38% en deux ans. Et on sait que la France est le pays industrialisé où l'on perd son emploi le plus tôt, à 57 ans et demi en moyenne. Il en résulte que la proportion de seniors, si on prend les 55 à 64 ans, au travail, n'est que de 39% en France contre 46% en moyenne européenne. À 60 ans, la majorité des nouveaux retraités français étaient déjà sans emploi. Et cela permet de comprendre pourquoi, si l'allongement de l'espérance de vie rend indispensable un recul du départ à la retraite, ceux qui disent que ce recul de l'âge n'a pas de sens en présence d'un tel niveau de chômage des seniors ont de forts arguments. On a ainsi l'impression que la sphère économique ne donne vraiment leur chance aux travailleurs que pendant une courte période de leur vie, 25 ans, voire moins, entre une jeunesse jugée trop instable et des quinquagénaires, voire des quadragénaires jugés déjà fatigués. C'est évidemment un non-sens déplorable. Comment expliquer cette fâcheuse particularité française ? D'abord, par une croissance économique trop faible. 2% par an seulement en moyenne sur la première décennie de ce siècle, c'est trop peu pour dégager un volume net significatif de création d'emplois. En effet, les progrès de productivité, indispensables car ils reflètent le progrès technique et sont la clé de la croissance future de notre économie, se poursuivent au rythme d'1,5% par an environ. À cela s'ajoute une progression démographique nette d'environ 0,6% par an. On voit que 2% de croissance suffisent à peine à maintenir l'emploi. Autrement dit, ce n'est qu'au-dessus de 2% de hausse du PIB annuel que notre économie commence à résorber le chômage. Or, nous atteindrons à grand-peine ce chiffre en 2010, et peut-être pas, selon la majorité des prévisionnistes, en 2011. Il faut absolument sortir de cette maladie de langueur. Une autre cause est la sous-compétitivité globale de notre pays. Ce que nous gagnons par les progrès de productivité, nous le reperdons, et au-delà, à travers l'alourdissement des coûts des entreprises, sur qui pèsent des charges sociales parmi les plus lourdes des pays industrialisés, plus de 65% du salaire, alors que la charge fiscale s'est, elle, modérée. Et ceci sans parler des conséquences délétères des 35 heures payées 39. D'où des coûts de production élevés et peu de flexibilité pour réagir aux à-coups de la demande. Étant moins compétitifs que nos voisins, allemands notamment, nous perdons des parts de marché, là où ceux-ci réussissent à en gagner malgré l'euro fort. Troisième cause, l'inadaptation relative de notre système d'enseignement et de formation, et ça joue un rôle majeur dans le chômage des jeunes et des seniors, évidemment. Nos collèges, nos lycées, et pour une bonne partie nos universités, dispensent une formation abstraite, coupée du monde économique et de l'entreprise. Le problème des débouchés est à peine pris en compte, l'orientation scolaire défaillante, l'enseignement professionnel dévalorisé, chacun sait qu'on y oriente les moins bons élèves. On ne compte par exemple en France que 3 universités technologiques, alors que celles-ci font la force de nos voisins d'outre-Rhin. Le corps enseignant est malheureusement rétif à toute évolution, jugée mercantiliste, vers une formation de base plus tournée vers la vie active. Malgré les efforts consentis pour encourager l'indispensable formation professionnelle, cette lacune n'est guère corrigée par la suite. Ça pourrait rattraper, mais en réalité, nous savons ce qu'il en est, et si bien que nous cumulons un chômage élevé chez les jeunes, et une grande difficulté à pourvoir les emplois qualifiés dès que l'économie redémarre. Enfin, des incitations économiques négatives aggravent la situation. Bien des prestations ou des tarifications, notamment celles des collectivités locales, restent plus favorables aux chômeurs qu'aux actifs. Effort social d'intention louable, mais qui est en même temps une incitation au non-travail. Il en est de même du système fiscal, qui taxe plus lourdement les revenus du travail que ceux du capital et pousse à la fraude. Les efforts tardifs, notamment avec la création du RSA pour rendre le retour à l'emploi plus rémunérateur, vont certes dans le bon sens, mais leur effet reste limité. Par ailleurs, les dispositifs de pré-retraite et de dispense de recherche d'emploi, largement utilisés depuis des décennies pour permettre aux entreprises de se débarrasser de leurs effectifs les plus âgés et sans trop de casse sociale, n'aboutissent qu'à camoufler en partie le chômage des seniors, tout en faisant peser une lourde charge sur les régimes sociaux. Ces attitudes perdurent. Tout dernièrement, on apprenait que Safran, grande entreprise de la mécanique, va être encouragée à faire partir en pré-retraite ses salariés de plus de 57 ans, aide publique à la clé. Est-ce ainsi que l'on fera régresser le chômage des seniors? Alors, que faire? D'abord, relancer l'investissement productif, clé de la croissance. Il a chuté de plus de 20% l'an dernier. La prévision actuelle est qu'un quart seulement de ce recul serait rattrapé cette année. L'état des finances publiques ne permet pas une nouvelle relance budgétaire. Il faut donc mobiliser tous les moyens possibles pour inciter les entreprises à investir. Par exemple, en cessant de soutenir l'épargne liquide au détriment de l'investissement en actions, en améliorant le système des amortissements dégressifs, en favorisant l'innovation technologique, etc. Une autre voie est la réduction des charges salariales, qui rend les embauches moins coûteuses pour les entreprises. Les exonérations de charges sur les bas salaires, jusqu'à 1,7 SMIC, mises en place en 2003, n'ont toutefois, selon une récente étude de l'INSEE, eu aucun effet durable sur le niveau de l'emploi. De plus, la situation de nos finances publiques rend impossible la mise en place de nouvelles mesures coûteuses. Le gouvernement songe même plutôt à réduire l'ampleur du dispositif actuel. Cependant, une nouvelle mesure va entrer en vigueur cet automne. Il s'agit de l'extension à toutes les entreprises du dispositif zéro charge pour l'embauche de travailleurs de plus de 50 ans en CDD ou CDI de plus de 6 mois. Même si certains dénoncent le risque d'effet d'aubaine, c'est-à-dire des aides bénéficiant à des recrutements qui auraient eu lieu de toute façon, cette mesure va dans le bon sens, puisqu'elle vise spécifiquement à favoriser l'emploi des seniors. Faut-il, parallèlement, regonfler les contrats aidés? Les gouvernements successifs ont recouru largement à ces dispositifs de traitement social du chômage avec les emplois jeunes et leurs successeurs. Il existe aujourd'hui près d'un demi-million de ces emplois subventionnés, y compris non moins de 137 000 contrats aidés supplémentaires mis en place l'an dernier pour atténuer la crise. Le dispositif est indéniablement utile, mais il trouve lui aussi sa limite dans la situation budgétaire. L'économiste Jean Pisani-Ferry fait remarquer que la France est l'un des pays qui dépense le plus pour l'emploi, 80 milliards d'euros, soit 4% du PIB, 4 fois plus qu'il y a 30 ans. Et ceci sans obtenir de résultats plus probants que les pays plus économes. De plus, si les contrats non marchands ainsi créés ne correspondent pas à terme à un besoin solvable, on aura placé des travailleurs, notamment des jeunes, dans des situations sans issue. Mieux vaudrait, pour traiter le problème au fond, revoir tout notre système d'enseignement et de formation. Une réforme fondamentale des cursus et des attitudes s'impose. Il y faudra beaucoup de temps et d'énergie. Mais, dès à présent, des progrès peuvent être faits en développant largement les formations en alternance. Les sorties de Pôle emploi pour stage ont progressé de 12% et les contrats d'apprentissage de 10% en un an, tandis que les contrats de professionnalisation bondissaient de 40%. C'est un pas dans le bon sens, là aussi. Bien d'autres mesures seraient à mettre en place, comme de faire suivre les jeunes diplômés par des coaches et de renforcer substantiellement la coopération en amont entre Pôle emploi et entreprise. Il faut également revoir tout le système d'incitation. La fin progressive de la dispense de recherche d'emploi, accordée jusqu'à 2008 à tout chômeur de plus de 57 ans et demi, était très souhaitable. De même, toute la philosophie du RSA, revenu social d'activité, est d'inciter à la reprise de l'emploi en améliorant le revenu des travailleurs concernés. Les salariés pauvres bénéficient, grâce à lui, d'un complément de revenu bienvenu. À partir de ce mois, les jeunes de moins de 25 ans pourront aussi prétendre au RSA, à condition d'avoir travaillé au moins 2 ans au cours des 3 dernières années, ce qui paraît là encore aller dans la bonne direction. Malheureusement, les objectifs fixés en la matière sont loin d'être atteints, si bien que les 2/3 des bénéficiaires sont aujourd'hui des chômeurs, les anciens RMistes, et une minorité seulement des personnes bénéficiaires ont un travail, 1 150 000 chômeurs contre 620 000 travailleurs. Pourquoi ? Sans doute parce que la procédure est encore mal connue et les formalités à remplir pour un apport financier limité décourageantes pour une population fragile. Le remède miracle est certes difficile à trouver. On avait cru le découvrir au tournant de ce siècle dans la flex-sécurité mise en œuvre par le Danemark et d'autres pays scandinaves. Souplesse de gestion pour les entreprises avec peu d'entraves au licenciement, mais indemnisation longue et généreuse des chômeurs alliée à une politique forte de formation professionnelle. Cependant, le chômage est remonté même dans les pays qui pratiquent la flex-sécurité, à près de 7% au Danemark, plus de 8% en Suède et en Finlande, avec un taux élevé de chômage des jeunes dans ces deux pays, puisque le chômage des jeunes y atteint 22 et 25% respectivement. Un économiste comme Philippe Askenazy voit d'ailleurs dans le relatif succès de ces pays en matière d'emploi davantage un résultat de leur effort d'innovation technologique que celui de la flex-sécurité. Faut-il pour autant baisser les bras ? Non. Au bout du compte, rien ne justifie vraiment que le mal français qu'est le sous-emploi perdure à ce niveau. Loin de la résignation d'un de nos présidents de la République qui déclarait « on a tout essayé », il faut poursuivre les efforts en se souvenant que compétitivité de l'économie et adaptation des enseignements sont la clé de tout. »